l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Les élèves de la ville de Séoul mangeront un menu sans viande à la cantine deux fois par mois. Il s'agit d'un mouvement pour réduire la consommation de viande et pour réagir contre le réchauffement climatique. Nous ouvrons notre édition du jour avec ce sujet, restez branchés, à tout de suite. À partir de ce mois-ci, tous les élèves d'écoles primaires, de collèges et de lycées de Séoul mangeront des repas sans viande deux fois par mois. L'objectif est de répondre à la crise climatique en réduisant la consommation de viande et de charcuterie dont la production émet beaucoup de CO2. Certaines écoles introduiront à l'essai un système de choix pour le régime végétarien. Le rectorat de l'Académie de Séoul a déclaré le 8 avril qu'il mettrait en place le lendemain un plan de base pour promouvoir une cantine verte pour cette année. Selon ce plan, toutes les écoles situées à l'intérieur de la capitale peuvent organiser deux fois par mois une journée de repas verte, à savoir le jour où les élèves prennent un déjeuner sans viande. La date et la méthode sont décidées par chaque école. Un responsable de l'agence d'éducation de Séoul a fait savoir que cette initiative visait à réduire la consommation de viande issue de l'élevage industriel et massif, qui est considéré comme l'une des principales causes de la crise climatique. Par rapport à la nutrition, il expliquait qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir car le tofu et la viande fabriquée à base de soja sont autorisés comme protéines alternatives. Les 25 écoles sélectionnées comme établissements phares pour l'éducation de l'écologie sont en mesure d'installer des bars à salade si elles le veulent. Les élèves de ces dernières pourront choisir un menu végétarien s'ils ne veulent pas manger de viande à la cantine. Tout en menant le changement de système de distribution de repas au sein des écoles. Le rectorat de Séoul s'emploie également à améliorer les connaissances sur le végétarisme chez les jeunes. Ils vont développer du matériel pédagogique et une formation professionnelle à travers la culture de petits jardins au sein de l'école. Ce plan écologique se conforme au plan de développement à moyen et long terme pour l'éducation à la transformation écologique 2020-2024 annoncé par le Bureau de l'éducation en juin l'an dernier. Ceci a été initié sur la demande de la Youth for Climate Action en 2019 de garantir le droit de choisir des cours d'environnement et le droit de choisir des aliments végétariens dans les repas à l'école. Cho Hyun, conseiller d'éducation, a souligné que l'humanité s'est rendu compte que la nature et les humains sont étroitement connectés et qu'ils doivent coexister ensemble. Il a ajouté que le repas vert promis par le rectorat est le synonyme de la déclaration d'un repas écologique contribuant à la neutralité carbone et à une planète durable. Si on pouvait fabriquer des collants à base de la poussière fine. Alors que le pays du matin clair s'inquiète des particules fines, à l'arrivée du printemps, une équipe de recherche coréenne a mis au point la première technologie qui permet de convertir des poussières fines en matière textile. Nous nous attendons que celle-ci pourra sauver à la fois notre environnement et notre économie. Des automobiles émettent des gaz d'échappement et des usines dégagent par leurs cheminées des oxydes d'azote. Ces matières se composent avec divers métaux lourds apportés par la poussière jaune pour créer des petites particules qui pénètrent dans les poumons en l'état. Kang Jae-hon, professeur du département de médecine familiale de l'université de Sungkyunkwan, s'est référé à certains rapports pour dire que des petites particules peuvent causer une maladie respiratoire aiguë ou un cancer du poumon. Il a ajouté qu'il provoque des inflammations des vaisseaux sanguins de tout le corps qui génèrent enfin des maladies cardiovasculaires. Tous les soucis de santé pourront être adoucis par cette nouvelle technologie, transformant le monoxyde d'azote recueilli dans l'air en une matière première pour la fibre de nylon. Cette technologie prometteuse a été inventée par l'équipe de recherche conjointe de l'Institut des sciences et de la technologie de Gwangju, du KAIST et de l'Université des femmes de Sungmyang. Lorsqu'ils ont injecté dans la pile à combustible du monoxyde d'azote et de l'hydrogène et provoqué une réaction catalytique avec des ions, 60% du monoxyde d'azote a été transformé en hydroxylamine, un composé à haute valeur ajoutée. L'hydroxylamine contenant de l'hydrogène peut également servir d'une méthode écologique de stockage de l'hydrogène. Che Chang-yeok, professeur du département de technologie des nouvelles matières de l'Institut Gwangju, il a expliqué que la réduction du monoxyde d'azote se traduit par une variété de produits, parmi lesquels on peut créer de l'hydroxylamine sélectivement grâce à cette technologie de catalyseur. Cette équipe de scientifiques prévoit de mener des recherches supplémentaires pour convertir directement des polluants atmosphériques tels que les gaz d'échappement en substances utiles au-delà des oxydes d'azote spécifiques. À partir de juin, Séoul mettra en place un système de certification de formation à la sécurité de la circulation à vélo et offrira une réduction des frais d'utilisation de Tareni, le vélo public de la capitale, à ceux qui réussiront un test de sécurité. La municipalité s'engagera dans la formation des instructeurs et dans l'élaboration d'un curriculum sur l'éducation à la maintenance du vélo afin d'encourager ses citoyens à utiliser le vélo en toute sécurité. Ils ont fait savoir le 7 avril qu'ils allaient réviser le système de formation à la sécurité sur le vélo à mesure que le taux d'utilisation des moyens de transport comme le vélo ou la trottinette électrique a augmenté dans le siège de la crise sanitaire du Covid-19 et que l'environnement de circulation connaît des changements. Un représentant de la mairie de Séoul a expliqué que le vélo public de la ville s'était installé comme un moyen de transport dans la vie quotidienne chez les citoyens, à tel point qu'il a été utilisé 24% de plus en 2020 par rapport à 2019, mais que le risque d'accident sur les pistes cyclables est plus important parce que les trottinettes électriques sont autorisées à y rouler. C'est pour cela que les autorités ont décidé de refonder le système de formation sur le vélo, de manière à l'adapter à la situation actuelle. Un des principaux changements concerne l'introduction d'une certification que les usagers du vélo peuvent obtenir après avoir passé un examen écrit sur le code de la route et un test de conduite sur des trajets courbés et rectilignes. Le niveau de test est divisé en deux, celui débutant pour les gens qui ont entre 9 et 12 ans et celui intermédiaire pour ceux qui ont plus de 13 ans. Une fois que l'on a terminé un programme de formation, on peut passer le test sur le terrain dans 4 centres d'examen selon les départements. La ville prévoit d'accorder une réduction sur les frais de Tareni à ceux qui ont le niveau intermédiaire pendant 2 ans. Des manuels sur les règles du code de la route ou des signaux de main en fonction des tranches d'âge ont été également distribués et les 80 nouveaux moniteurs seront aussi formés pendant 25 heures sur 5 jours à partir du 26 avril. Deux fois par an, un cours sur la maintenance du véhicule pour les cyclistes sera dispensé. La responsable des politiques sur le vélo de la mairie se montre persuadée que le système de certification qui atteste l'habilité des usagers du vélo contribuera à renforcer la sécurité sur les pistes cyclables.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Kim Mongju ce lundi 12 avril. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme annonçait le 7 avril qu'il organiserait divers événements sur la culture de la lecture en ligne, conjointement avec l'Agence coréenne de promotion de l'industrie de la culture de l'édition. Cet événement sera organisé le 23 avril pour célébrer la journée mondiale du livre établie par l'UNESCO. Pendant cette journée, les 423 citoyens recevront des livres et des fleurs de rose. Les citoyens sud-coréens qui ont inscrit entre le 7 et 9 avril sur le site de la Journée mondiale du livre 2021 leurs œuvres préférées avec un message d'encouragement pourront les recevoir en plus des cartes postales et des cadres de fleurs de rose. Parmi ceux qui ont laissé leurs histoires personnelles ou des soucis sur le site, 100 personnes sélectionnées bénéficieront des livres qui peuvent leur donner une piste pour résoudre leurs préoccupations et des lettres avec des messages réconfortants. Sur la chaîne YouTube de l'Agence de promotion de l'industrie de la publication, on pourra se divertir avec un talk show parlant de différents ouvrages. Nam Gung-in, médecin urgentiste et écrivain, a animé aujourd'hui l'émission de débat sur le thème des journées paisibles, le titre de son œuvre qui parle de l'histoire d'amour spécial avec des gens ordinaires qu'il a rencontrés dans une vie féroce. Le 18 avril, Kim Gaul, écrivaine et youtubeuse, va s'entretenir avec un modérateur de l'émission sur le thème des mots dans des livres et des mots des youtubeurs dans le domaine de la lecture. Une diffusion en live organisée par 150 librairies et maisons d'édition sera également mise en ligne entre le 21 et le 25 avril. La cérémonie de la célébration de la Journée mondiale du livre aura lieu le 23 avril dans la forêt de la Sagesse, située dans la ville de Paju, tout en respectant les règles sanitaires. La procession des lanternes dans le centre-ville de Séoul, un événement prévu pour l'anniversaire du Bouddha, n'aura pas lieu cette année avec la prolongation de la crise sanitaire du Covid-19 et ce pour la 12e année de suite. Selon l'ordre Joke du bouddhisme coréen le 9 avril, les mondes bouddhistes célébraient la naissance de Sakyamuni avec une cérémonie solennelle pendant 4 jours du vendredi au dimanche la semaine avant son anniversaire. Le défilé de lanternes qui se tient normalement samedi au cœur de la capitale est le plus grand moment spectaculaire durant la période de fête. 20 000 personnes portaient lanternes de papier en forme de lotus de toutes variétés de couleurs, à partir de l'université de Tonggu jusqu'au temple Chogesa. Il s'agit d'un des grands festivals qui attire aussi l'attention dans d'autres pays. L'année dernière, le monde bouddhiste a retardé d'un mois la procession en l'honneur de Bouddha, qui était prévue le 30 avril en raison de l'augmentation du risque d'infection au coronavirus depuis la fin janvier. Cet événement a été finalement annulé parce que des contaminations en groupe ne cessaient de se reproduire. C'était la première fois en 40 ans qu'il n'a pas été organisé. La situation de cette année où l'anniversaire de Bouddha tombe le mercredi 19 mai reste la même. La célébration aura pourtant lieu le 15 mai à une échelle réduite dans les temples à travers le pays. Quelques moines et croyants se promèneront autour de leurs temples. À partir du 14 mai, les lanternes traditionnelles seront présentées dans le temple Pongunsa, situé dans le quartier Gangnam et près du canal Cheonggyecheon. En outre, une exposition spéciale sera ouverte du 14 au 23 mai dans le musée central du bouddhisme en célébration de l'enregistrement du festival en tant que patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Des femmes sud-coréennes terrorisées par le récent meurtre commis par Kim Tae-yeon, qui a coûté la vie à une mère et à ses deux filles, commencent à veiller plus à la protection de leurs données personnelles. Certaines mettent leurs comptes de réseaux sociaux en mode privé ou achètent une déchiqueteuse pour effacer toute trace qui contient des informations personnelles. Hong, une salariée de 27 ans, a recommandé à son entourage d'acheter un petit destructeur de documents. Ses copines l'avaient jugé trop sensible, mais après l'affaire du meurtre, dont l'auteur s'est renseigné sur l'adresse du domicile de la victime sur ses réseaux sociaux, ils ont changé d'avis. Depuis qu'on a appris que le tueur a pu pénétrer chez la victime avec l'adresse que cette dernière a exposée par erreur en ligne, des Coréennes se sont mises à trouver des moyens de prévenir la fuite d'informations personnelles qui peut arriver à leur insu dans la vie quotidienne. Le 10 avril, une femme a fait savoir par son compte Instagram qu'elle avait acheté un mini destructeur dans une papeterie afin de détruire soit des factures de livraison ou des reçus. Et sont nombreuses à partager leurs astuces pour supprimer des textes imprimés sur des factures, comme vaporiser dessus de l'acétone ou du parfum, ou encore utiliser un tampon à roulette qui efface le contenu en repeignant sur le papier. Certaines se sont confiées qu'elles mettent un pseudonyme de prénom masculin quand elles passent une commande sur Internet ou une autre adresse que celle de leur maison. Donc, une fille de 26 ans qui habite avec sa famille, remplace son nom par celui d'un homme aléatoire et fait envoyer ses colis dans une cabine publique de réception de colis disponible dans son quartier. Il y a également des femmes qui suppriment des informations personnelles mises en ligne sur les réseaux sociaux. Kim, une salariée de 28 ans, a décidé de fermer définitivement son compte d'une application dont elle se servait auparavant pour garder le contact avec ses anciens amis de l'université, parce qu'elle s'est rendue compte que l'on pouvait voir sur son profil le nom de son école ou des photos de son quartier. Les experts, quant à eux, s'accordent à dire que l'affaire de Kim Tae-hyun, qui a prouvé la gravité des crimes de stalking, a bouleversé la population féminine et que ce n'est pas uniquement le problème des individus, mais que ce sont les collectivités locales ou les autorités nationales qui doivent mettre en œuvre des solutions au niveau des institutions.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Notre première destination est la Birmanie, où la vente des billets de loterie chute depuis le coup d'état militaire. La loterie Umbarley, pour laquelle environ 5 milliards de kyat, soit 900 000 euros, sont mis en jeu, s'écoulait auparavant à près de 40 millions de tickets par mois. Or, les citoyens birmans ont lancé un boycott dans le but d'entraver le financement de la junte militaire et ses ventes ont dégringolé. Le fisc birman a alors dû reporter de 12 semaines le tirage prévu le 1er mars. La prochaine annonce des gagnants aura lieu le 1er mai en sautant le mois d'avril. À l'inverse, le granulat a vu sa demande grimper depuis la prise de pouvoir de l'armée birmane, car les habitants ont barricadé les rues et l'entrée de leur village avec des sacs de gravier, de sable et des briques en vue de retarder ou empêcher le déplacement du régime militaire. Celui-ci a alors rendu obligatoire aux vendeurs la déclaration d'achat des individus aux autorités publiques. Twitter a lancé un emoji dédié à hashtag Mukti Alliance, un mouvement pro-démocratie en Asie, pour célébrer son premier anniversaire. Cet émoticône à l'effigie du thé au lait est disponible en anglais, en thaï, en coréen, ainsi que dans plusieurs autres langues asiatiques. Selon le réseau social à l'oiseau bleu, ce hashtag a été mentionné plus de 1,1 milliard de fois ces 12 derniers mois et son utilisation a de nouveau explosé en février dernier où le putsch militaire a éclaté en Birmanie. Cette alliance a vu le jour après qu'une actrice thaïlandaise qui a soutenu l'indépendance de Hong Kong et de Taïwan sur un réseau social a été vivement critiquée par les internautes chinois. Son appellation s'inspire du fait que le thé au lait est une boisson populaire en Thaïlande, à Taïwan et à Hong Kong. Pékin est la ville qui abrite le plus de milliardaires dans le monde. Selon le magazine économique américain Forbes, New York, qui a conservé la première place ces 7 dernières années, a été relégué au second rang par la capitale chinoise. Pékin comptait 100 milliardaires l'an dernier, soit 33 de plus sur un an, contre 99 pour New York. La hausse du nombre de super-riches en Chine s'explique par sa gestion plutôt réussie du COVID-19 qui a permis de maintenir son économie à flot. Surtout, les fondateurs d'entreprises de technologie de pointe ont vu la valeur estimée de leurs actions exploser. Par ailleurs, les États-Unis restent toujours le pays qui concentre le plus de milliardaires avec ses 124. L'Empire du Milieu s'est classé au 12e rang avec 698. Nous nous dirigeons maintenant au Cambodge où le Premier ministre a averti qu'il licencierait les fonctionnaires et les militaires qui refusent de se faire vacciner contre le COVID-19, et ce pour accélérer la campagne nationale de vaccination. D'après le quotidien Khmer Times, Hun Sen a écrit la semaine dernière sur son compte Facebook que le gouvernement n'avait pas besoin des agents publics qui évitent l'injection du vaccin. Le Cambodge était l'un des pays qui dénombre le moins de cas de contamination au monde, mais l'épidémie a bondi à partir de la fin février et a fait le premier mort. Le nombre cumulé d'infections a dépassé 4000 le week-end dernier. Face au manque de lits d'hôpitaux, le chef d'État cambodgien a ordonné aux autorités sanitaires de faire soigner les patients à domicile. Notre voyage de cette semaine prend fin au Japon, qui prévoit d'introduire la semaine de travail de 4 jours. Selon la chaîne de télévision NHK, le Parti libéral démocrate, la formation au pouvoir, devrait achever ce mois-ci un rapport en la matière qui sera reflété dans la directive gouvernementale. Ce dispositif a été lancé alors que différentes formes de travail flexibles, dès que le travail à domicile, se sont démocratisées sur fond de la pandémie de COVID-19. Le secrétaire général du cabinet, Katsunobu Kato, a récemment indiqué que la semaine de 4 jours était importante pour réconcilier la vie professionnelle et la vie quotidienne, particulièrement pour l'éducation des enfants et le soin de la maladie. Ce nouveau système permettra également de décentraliser la population qui se concentre dans les grandes villes.
Voilà, ainsi s'achève votre Séoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Kim Hong-ju au micro avec Oh Hae-yeon à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.